Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Aimerait-on avoir peur ? En tout cas, les prophètes du malheur cultivent dans les médias, via les chaînes d'infos et les réseaux sociaux, un marché florissant qui impacte l'énergie et le mental des Français. Il faut donc du courage, beaucoup de courage même, pour dénoncer, de manière étayée bien sûr, cette posture négative qui fait figure de pensée unique. Je reçois Nicolas Bouzou, bien connu des auditeurs d'Europe 1 pour son édito écho du lundi au jeudi à 7h20 sur l'antenne. Nicolas Bouzou qui signe un essai revigorant sur toutes les raisons de résister au catastrophisme ambiant. Ce livre a pour titre « La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance en l'avenir ?» Et il paraît chez XO. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Une heure pour nous convaincre.
J'ai essayé.
Alors, cher Nicolas Bouzou, bon, garder confiance en l'avenir n'a jamais autant été un défi. La guerre en Ukraine, le Proche-Orient en feu, le terrorisme islamiste, avec l'attaque des démocraties, les crises sanitaires, les émeutes, les grèves, le réchauffement climatique avec la montée des eaux. Bon, tout cela est réel. Mais on en a déjà traversé des guerres et de terribles au XXe siècle. Alors pourquoi aujourd'hui a-t-on si peur ?
Alors déjà, vous avez tout à fait raison de remarquer qu'on a déjà connu beaucoup de problèmes. En réalité, on pourrait prendre une frise chronologique, on met le doigt n'importe où au hasard, hein, en fermant les yeux, et je vous promets que je vous trouve autant de problèmes qu'aujourd'hui. Donc
hélas,
il y a quand même une illusion rétrospective du « c'était mieux avant
».
Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on n'y était pas, parce qu'on ne l'a pas connu. Et d'autre part, parce que la peur est beaucoup plus relayée qu'elle ne l'était par le passé. Elle l'est beaucoup plus par les médias, notamment par une innovation dont, à mon avis, on a sous-estimé l'importance. Il y a une vingtaine d'années, hein, qu'ont été les chaînes d'infos en continu, qui relaient de l'information toute la journée et souvent des mauvaises nouvelles. Et vous avez une partie de nos concitoyens, malheureusement, qui s'abreuve toute la journée aux chaînes d'infos en continu, non pas qu'elles soient mauvaises. Moi, j'aime beaucoup, je les regarde et j'y vais. Simplement, il ne faut pas que ce soit la seule source d'information. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, ce sont les réseaux sociaux, dont il est parfaitement documenté qu'ils propagent d'autant plus une nouvelle qu'elle est mauvaise, qu'elle est catastrophique, indépendamment de son niveau de fiabilité, ce qui est quand même un sujet qui devrait nous faire réfléchir très en profondeur.
D'une manière excessive, au point que ça devienne une fake news.
Exactement.
Alors, il y a une sorte de jubilation régressive à avoir peur.
Oui. Hein.
C'est d'ailleurs ce que procurent les films d'horreur. Mais le marché de la peur, Nicolas Bouzou, aujourd'hui, il tient tous les médias. C'est un gage d'audience. Donc, notre société, elle est biberonnée à la pensée unique des médias de la peur. Et ils ne vont jamais faire marche arrière.
Alors, d'une part, il n'y a pas que les médias. Hein, parce que si vous prenez, par exemple, les plateformes de vidéo, je pense à une plateforme en particulier dont je reçois la newsletter toutes les semaines. Et toutes les semaines, vous avez une nouvelle série sur les serial killers, hein, par exemple. Hein, donc, on voit que, au fond, même les reportages, même la fiction, hein, joue beaucoup là-dessus. Ensuite, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis un libéral, donc... C'est-à-dire, il y a une donne économique et donc les chaînes d'information donnent des nouvelles toute la journée qui sont pas nécessairement bonnes. Les algorithmes trient l'information d'une façon qui correspond aussi à leur intérêt économique.
Oui.
Bon, les ONG, les organisations non gouvernementales agitent souvent le chiffon de l'effondrement climatique parce qu'elles ont aussi besoin de récupérer de l'argent. Donc je comprends parfaitement tout ça. C'est la raison pour laquelle je considère que le fond du sujet, c'est nous. D'apprendre à consommer de l'information. Vous voyez, il faut revenir vers des formats plus... Exactement ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Des formats de conversation plus longs.
Voilà.
On a le temps d'approfondir.
Voilà.
Prendre du recul historique. Lire. T'as pardonnez-moi de dire quelque chose d'aussi... mais d'aussi simple, mais lire.
Mais alors, bon, dans cet essai décapant, mais optimiste, qui a donc pour titre « La civilisation de la peur », vous écrivez « À petite dose, la peur stimule l'action. À haute dose, la peur paralyse l'action et tétanise la société. » On en est là.
Oui, parce que...
particulièrement les Français, parce que j'ai l'impression que les Français, ils sous-estiment très très souvent leur capacité à vaincre le chaos annoncé.
Oui, alors vous avez raison. Alors, d'une part, oui, la peur, si on a peur, d'ailleurs, la peur c'est un phénomène biologique, hein, qui a émergé avec l'évolution humaine, parce que la peur a une utilité. Si vous êtes menacé dans la rue par quelqu'un avec une arme, évidemment, la peur, c'est ce qui va vous amener à réagir très vite, accélérer le rythme cardiaque, etc. Et donc, à vous échapper plus vite. Donc, c'est quelque chose qui a son utilité. et surtout qui a eu son utilité par le passé. Il y a 10 000 ans, on avait 20% de chance, entre guillemets, de probabilité de mourir de mort violente, c'est-à-dire très concrètement assassiné ou tué par un animal. Évidemment, on n'est pas à 20% aujourd'hui, mais notre corps est adapté à ce contexte, si vous voulez. Donc, on a facilement peur. Et on a trop souvent peur, parce que la vérité, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel, en réalité, alors là, je sais que je vais sans doute même choquer en disant ça, mais on vit dans un monde dans lequel on n'a jamais été autant protégé. Et donc, nous avons des réactions de peur qui sont des réactions excessives.
Ouais.
Et le problème de la peur excessive, c'est qu'elle modifie votre fonctionnement cérébral et elle vous fait prendre de mauvaises décisions.
Alors, Nicolas Bouzou, parmi les prophètes de l'Apocalypse, qui ont toujours de l'audience dans nos universités, eh bien, il en est un qui vécut au XVIIIe siècle et qui a donné naissance au XXe siècle et au XXIe d'ailleurs, à des clubs de réflexion, à des démographes, à des écologistes adeptes de la décroissance. C'est Malthus. C'était quoi sa théorie, publiée en 1798?
Alors, c'est très simple. Hein. L'idée de Malthus, qui était pasteur d'ailleurs, c'était au fond de dire... à chaque fois qu'on a une amélioration de la prospérité, ça aboutit à un boom des naissances. Et donc, si on fait le ratio des nouvelles denrées alimentaires, par exemple, sur la population, ça baisse, parce que la population explose. Et donc, les humains vivent dans un espèce d'état de pauvreté dont il est impossible de sortir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a écrit ça, en effet, à la fin du XVIIIe siècle, mais il l'a écrit au moment où, en réalité, la révolution industrielle commençait à le détromper, puisque c'est à partir, disons, du début du XIXe siècle qu'on a commencé à avoir une augmentation très forte du revenu par tête, qu'on a eu une augmentation de la disponibilité des denrées alimentaires par habitant, en raison de l'innovation technologique, c'est-à-dire au fond de l'intelligence humaine.
Voilà, et moi, ce qu'il n'avait pas prévu. Mais alors, ce qui est absolument fascinant, Nicolas Bouzou, c'est que lorsque vous débattez dans les médias avec des écologistes adeptes de la décroissance, eh bien, il paraît qu'ils vous ressortent les théories de Malthus, qui datent donc de la fin du 18e. Malthus qui prévoyait donc la famine pour l'humanité, alors que bon, la population mondiale, elle est passée de 1 milliard en 1800 à 8 milliards en 2022. Et elle a d'ailleurs progressé de 1 milliard dans les 10 dernières années. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi l'influence de Malthus perdure alors que ses prévisions étaient fausses.
Oui, bien sûr, complètement. Mais ce qui est très frappant, c'est que dans un débat télévisé, le fait d'avoir une posture pessimiste, disons, donne l'air intelligent, ça donne l'air sage. Non, mais si vous prévoyez l'effondrement, si vous dites que les inégalités sont en train d'exploser, que le nombre de personnes qui meurent de faim est en train d'exploser, peu importe que ce soit vrai ou faux, ça vous donne l'air sage et ça vous donne l'air intelligent. Si vous brandissez des statistiques pour expliquer que le nombre de personnes qui meurent de faim dans le monde aujourd'hui n'a jamais été aussi faible, on vous prend pour le ravi de la crèche, grosso modo.
Et pourtant, c'est une réalité.
Ah bah oui, je mens pas, oui, bien sûr. Et ça s'appuie, ça s'appuie sur des statistiques.
Si je veux jouer la pessimiste, si je vous demande, bon, l'épuisement des ressources naturelles avec plus de 8 milliards d'êtres humains, cet épuisement, il est bien réel, hélas. Non ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, absolument. Pour une raison simple, c'est qu'on va utiliser des ressources naturelles qui seront différentes. De toute façon, je veux dire, si on pense aux hydrocarbures, c'est-à-dire au pétrole, au gaz, au charbon, ce sont des ressources naturelles qui émettent beaucoup de CO2, donc qui font le réchauffement climatique. Et de toute façon, on veut substituer d'autres ressources naturelles à celles-ci, notamment des énergies renouvelables, du nucléaire, etc. Donc, en réalité, quand vous regardez l'histoire longue, on n'utilise plus de silex aujourd'hui, vous voyez. Donc, et c'est pour ça que vraiment le message que je veux faire passer, mais qui est corroboré par l'histoire, c'est qu'il faut faire confiance à l'intelligence humaine. Vous savez, il y a toujours eu des problèmes dans l'histoire de l'humanité, y compris des problèmes écologiques de nature très différente d'aujourd'hui. On ne se préoccupait pas évidemment du réchauffement climatique au début du 19e siècle, mais au début du 19e siècle, on faisait face à une pénurie de bois. Et donc, un écologiste radical vous aurait dit on fait face à une pénurie de bois, le prix du bois augmente. Eh bien, désolé, mais nous devons adopter un modèle de décroissance et donc nous appauvrir parce que, on ne peut pas faire sans bois. Oui, mais justement, on a utilisé le charbon.
Mais alors, Nicolas Bouzou, l'idéologie de la décroissance, dont les médias nous rabattent les oreilles en permanence, elle va de pair, bien sûr, avec l'effondrement du capitalisme.
Oui.
Or, même la Chine communiste peut faire des profits.
Oui, bien sûr. Déjà, je ferai remarquer que aujourd'hui, les pays qui sont les plus vertueux du point de vue écologique sont les pays les plus libéraux, en réalité. Pardonnez-moi de le dire brutalement, mais ni le Venezuela, On va dire modèle de l'économie socialiste, ni le Bhoutan, modèle de l'économie décroissante où on ne se soucie pas des biens matériels, aucun de ces deux pays n'est sur la voie de la neutralité carbone. Vous avez un pays aujourd'hui dont les émissions carbone diminuent rapidement et qui est sur la voie de la neutralité carbone en 2050, c'est le Royaume-Uni. Ouais. Donc c'est un pays d'innovation, c'est un pays plutôt libéral, c'est un pays d'entrepreneurs où tout simplement on cherche des solutions à cette question du réchauffement climatique, mais comme on l'a toujours fait dans l'histoire de l'humanité.
Alors, autre question, juste avant de faire une pause.
Oui.
L'Occident est l'espace le plus prospère, le plus libre et le plus égalitaire sur la planète. Mais on prédit sa fin depuis longtemps.
Oui.
Tout ça, ça remonte à la parution en 1918 d'un ouvrage qui fit grand bruit, Le déclin de l'Occident, rédigé par le philosophe allemand Spengler.
Oui.
Il évoquait donc tous les conflits qui allaient affaiblir la civilisation occidentale. Il parlait de la Russie, il parlait de la Chine, mais il n'évoquait pas l'islamisme.
Mmh.
Or, l'Occident, depuis le 11 septembre 2001, est très officiellement la cible de l'islamisme et les attentats sont de plus en plus fréquents. Pensez-vous que l'Occident est capable de résister à une guerre de religion?
Oui, alors déjà, moi je pense que l'islamisme est la principale menace pour nos sociétés et pour nos valeurs, qui sont les valeurs des Lumières. Tout simplement parce que ce sont des gens, l'islamisme radical, ils nous ont déclaré la guerre. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire notre modèle de société et c'est parfaitement assumé et c'est la raison pour laquelle ils nous attaquent. Donc là, nous sommes en guerre, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est comme ça. Donc c'est un défi colossal et qui, à mon avis, pour le coup, est un peu sous-estimé. Mais regardez par exemple le mouvement des femmes iraniennes qui enlèvent leur voix. Regardez cette aspiration à la liberté qui existe dans le monde. Je vais vous dire, sur cette affaire d'Occident, le juge de paix, c'est là où les gens veulent vivre. Et quand vous regardez les migrations au niveau mondial, où les gens veulent vivre, ils veulent aller au Canada,
bien sûr,
aux États-Unis et en Europe.
Ils ne veulent absolument pas aller en Iran.
Ah non, pas du tout, non.
Et pas non plus en Russie.
Voilà.
Alors Nicolas Bouzou, il y a dans le débat public en France une posture des intellectuels héritée de Jean-Paul Sartre qui vous agace. Allez, on va dire ça comme ça. Cette posture, elle consiste à critiquer à jet continu la société française comme Sartre critiquait la démocratie libérale dans laquelle il vivait et à laquelle il préférait l'Union soviétique. Pourquoi les intellectuels français ont-ils toujours un tel ressentiment contre leur pays?
Alors, ça a été parfaitement démontré par Raymond Aron dans un livre qui s'appelle « L'opium des intellectuels ». Et Raymond Aron a deux réponses à cela. Bon, la première, c'est que l'intellectuel français, qui est une spécificité française hein, d'ailleurs, un intellectuel généraliste qui parle de tout, une spécificité plutôt sympathique d'ailleurs, mais qu'on retrouve pas du tout dans les pays anglo-saxons. Historiquement, il s'est construit en opposition à la société. D'abord en opposition à l'Ancien Régime, en opposition à la monarchie. Il était révolutionnaire. Alors, c'était parfaitement justifié, bien évidemment, mais ce réflexe a perduré avec le temps. Et donc, l'intellectuel, par définition, est en France contre le système dans lequel il vit, c'est-à-dire aujourd'hui contre la démocratie libérale. Vous trouvez quasiment aucun intellectuel dans notre pays qui défende la démocratie libérale. Et donc Sartre, c'est très exactement ça, vous venez de le dire. Quand on relit Sartre aujourd'hui, pardonnez-moi, mais on est absolument effrayé par ce qu'il pouvait écrire, mais de bêtises, mais en plus une bêtise qui était une insulte à son intelligence, qui était immense. C'est-à-dire que l'idéologie peut vraiment vous amener mais à raconter n'importe quoi. Et donc quand Sartre explique que, je le cite, que les États-Unis sont un pays nazi, dont la politique se situe dans la tradition hitlérienne, vous voyez le niveau d'absurdité auquel le dogmatisme peut mener une si grande intelligence. La deuxième raison qui est assez amusante, c'est que Raymond Aron explique que l'intellectuel français est celui qui, dans le monde, a la plus haute idée de lui-même, mais les conditions matérielles qui sont les plus basses, parce que l'université française paye mal. Et donc, cet écart génère un ressentiment qui aboutit à une critique permanente de la société dans laquelle vit l'intellectuel français.
Bon, le communisme a échoué partout sur la planète, mais il effraie moins les intellectuels qu'une société capitaliste. Pourquoi ?
Bien sûr, la démocratie libérale est quelque chose de profondément ennuyeux, au fond, où la politique est une politique, on le voit tous les jours, qui est une politique qui est assez médiocre, au fond, où on a du mal à se projeter dans l'avenir. Et donc, l'intellectuel qui a une très grande vision, une très haute idée de ce qu'il peut apporter à la société, ne supporte pas cette médiocrité. Sauf que cette médiocrité, pour paraphraser Churchill, c'est le pire système à l'exception de tous les autres.
Voilà.
Parce que bien évidemment, et c'est pour ça que vous savez, moi je défends toujours la politique, je défends toujours les hommes politiques, même dans leur bassesse, même dans leur médiocrité, parce que je vous promets qu'il vaut mieux ça qu'une dictature.
Alors Nicolas Bouzou, dans La civilisation de la peur qui paraît chez Ixo, vous affirmez qu'on vit dans un monde en fait qui est de plus en plus égalitaire. Alors que dans les médias, j'entends en permanence le contraire. J'entends que les inégalités se creusent. Expliquez-nous.
Bah, c'est très simple. Alors, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Ce sont les chiffres qui l'attestent. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, les pays les plus pauvres, ce qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde, qu'on a appelé ensuite les pays émergents, et puis certains maintenant ont émergé. C'est le cas d'une grande partie de la Chine, par exemple, mais de beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est aussi, hein, le Thaïlande, le Vietnam, mais ce sont des pays qui se sont considérablement enrichis. Et donc cet enrichissement qui a été beaucoup plus rapide que celui de pays développés comme la France a abouti à une diminution absolument historique des inégalités au niveau mondial. Et donc en réalité, même s'il subsiste des inégalités, et il y en aura toujours, mais le monde n'a jamais été aussi peu inégalitaire qu'aujourd'hui.
Bon, au 19e siècle, savoir lire et écrire était réservé à une élite. Aujourd'hui, 90% de la population mondiale sait lire et écrire. Donc, à part dans des pays comme l'Afghanistan, l'obscurantisme est loin derrière nous.
Non, enfin, en tout cas, il ne s'éteint jamais. Donc, le combat continue en permanence. C'est une guerre en réalité, parce que la liberté n'est pas quelque chose qui est spontané, la liberté est quelque chose qui se conquiert, la liberté est quelque chose qui se défend.
Et
on voit bien aujourd'hui que les démocraties libérales sont menacées. Elles sont menacées par la Russie, elles sont menacées par l'islamisme, elles sont menacées, en tout cas, mises au défi, je dirais, par la Chine, qui n'est pas un pays qui nous menace directement, mais enfin on voit bien qu'il y a un narratif chinois anti-occidental qui est très fort. Et face à ça, il faut se défendre, parce que il s'agit pas de défendre l'Occident. Je ne suis pas un nationaliste. Il s'agit de défendre les valeurs des Lumières, c'est-à-dire les valeurs de la liberté que beaucoup de gens en Chine, en Iran, en Afghanistan, aimeraient défendre. Et donc il faut leur montrer qu'on est fier de ces valeurs et qu'on considère que, au fond, le socle de l'épanouissement humain, et j'en suis absolument convaincu, ça passe par la liberté, ça passe par l'état de droit, et ça passe par nos démocraties libérales. C'est quand même là qu'on est le moins malheureux.
Que ça fait du bien à entendre. Alors, parlons de ce qui est visiblement positif. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Bon, on est angoissé, bien sûr, par les crises sanitaires, mais les scientifiques assurent que, pour la population qui naîtra en 2050, l'espérance de vie moyenne sera de 91 ans. Alors que l'espérance de vie moyenne pour ceux nés en 1960 est de 69 ans. Donc, au 22e siècle, Nicolas Bouzou, on sera tous centenaires.
Il y a déjà
en tout cas, vraiment un nombre.
Oui. Non, mais le nombre de centenaires est déjà en train d'augmenter. Il y a un très grand débat chez les scientifiques pour savoir s'il existe. On saurait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais une limite biologique à la longévité humaine. C'est vrai que quasiment personne ne passe l'âge de 120 ans. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels on fait des progrès extraordinaires, et celui dans lequel on fait le plus de progrès, qui nous intéresse tous, parce que c'est une maladie chronique d'ailleurs, désormais, qui est très répandu, c'est le cancer,
bien
évidemment, dans lequel on a déjà fait beaucoup de progrès ces 20 dernières années, mais ces progrès sont en train d'accélérer, notamment, et c'est ça, vous voyez quand même que l'humanité, c'est quelque chose, parfois faut voir le bon côté, grâce à la crise sanitaire, grâce à l'épidémie de Covid-19, qui a abouti à ces fameux vaccins à ARN messager, dont la technologie est aujourd'hui utilisée pour tester des vaccins curatif, pour le coup, contre un certain nombre de cancers, avec des résultats parfois tout à fait remarquables.
Alors, j'ignorais complètement, je suis heureuse de l'apprendre. Donc, au 22e siècle, on sera presque tous centenaires, mais l'intelligence artificielle pilotera intégralement notre monde. Donc, on sera également tous chômeurs.
Alors là, je suis vraiment sûr que ce ne sera pas le cas. Je dirais que la façon dont vous venez de présenter les choses, c'est presque la vision optimiste, parce que le débat public sur l'intelligence artificielle, c'est entre ça va nous prendre notre job et elle va se retourner contre nous pour une raison que je ne suis pas bien sûr de comprendre, et ça va aboutir à l'extermination de l'espèce humaine.
On a trop regardé Alien en boucle.
Alors, je pense qu'on a beaucoup trop regardé la science-fiction, et je pense surtout que, au fond, on donne à la science-fiction un pouvoir de prescience qu'elle n'a pas. Je pense que c'est vraiment une erreur fondamentale. La science-fiction, en réalité, contrairement à ce qu'on dit, se trompe très souvent. Mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le travail, bon, d'une part, vous savez, ce débat, il a toujours existé, à la Renaissance, au 19e siècle. Donc, non. Au fond, tant qu'il existera une complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, tant que nous serons différents, l'intelligence artificielle restera un outil pour les humains. Et un outil absolument extraordinaire, parce que ça peut nous aider aujourd'hui dans le domaine de la santé, ça peut nous aider dans le domaine de l'écologie, ça peut nous aider dans le domaine de l'accès à la culture. Il y a énormément de choses absolument passionnantes à faire avec l'intelligence artificielle. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que il faut apprendre à l'utiliser. Et donc, il faut que les humains maîtrise ces techniques pour en faire des outils. On me dit l'intelligence artificielle va être plus intelligente que nous. Mais n'importe quel robot est beaucoup plus fort en termes de force physique.
Donc
c'est la même chose.
Gardons le contrôle.
Ah donc gardons le contrôle, bien évidemment.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Il n'y a pas que les réalités de ce monde qui engendrent la peur. Il y a les prophètes du malheur qui en font, via les médias, un marché lucratif. Nicolas Bouzou, que vous retrouvez du lundi au jeudi à 7h20 sur l'antenne pour son édito Écho, eh bien publie chez Ixo la civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance en l'avenir ? Nicolas Bouzou, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, promotion 1999, c'est-à-dire il y a un quart de siècle. Sur son site en ligne, Sciences Po se réclame de Harvard, la plus prestigieuse université américaine, désormais phagocytée par le wokisme. Wokisme, je le rappelle, mouvement qui dénonce à l'origine toutes les formes de discrimination sur les minorités, mais qui est devenu si radical qu'il a donné naissance, par exemple, à l'écriture inclusive. Il encourage la censure, la dénonciation, il considère le mâle blanc hétérosexuel comme l'ennemi à abattre. Et il a permis, en France, par exemple le mois dernier, l'occupation d'un amphi de Sciences Po pour une conférence de soutien à Gaza. Pour tout ça, porté par une conscience, on va dire, d'ultra-gauche qui ne souffre pas, en fait, d'autres choix politiques. Parle-t-on, en fait, de l'école qui était la vôtre en 1999, quand je rappelle tout ça?
Alors, en fait, moi j'ai simplement fait un troisième cycle, mais je pense que, oui, l'école a toujours été perméable à des idées qui sont mauvaises. Et ce que vous dites, à mon avis, est absolument essentiel, vous voyez, parce que là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la liberté, de l'état de droit, etc. Ça, c'est une menace, le wokisme, qui vient de l'intérieur, parce que en réalité, c'est une négation de la civilisation des Lumières. À partir du moment où vous considérez que l'être humain n'est plus abstrait, mais qu'il y a des différences, qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs, qu'il y a des juifs, à partir du moment où vous faites des catégories,
c'est du racisme.
Non, mais c'est ce qu'on appelle le racisme. Alors c'est un racisme qui se part d'être antiraciste, mais il n'en est pas moins un racisme, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument intolérable. Et cette question de l'antisémitisme, à mon avis, est vraiment l'un des sujets majeurs dans nos sociétés aujourd'hui. Parce que pourquoi est-ce que l'antisémitisme monte ? En fin de compte, c'est parce que Israël incarne, dans une zone qui est une zone où sévit quand même beaucoup d'obscurantisme, incarne justement les valeurs occidentales, la démocratie libérale, et donc suscite beaucoup de haine à cause de ça. Parce que l'antisémitisme s'est réveillé à l'occasion des attentats islamistes du Hamas du mois d'octobre 2023. Mais enfin, c'est, l'antisémitisme est quelque chose de latent dans notre pays, mais pas seulement, et qui attendait un prétexte, en réalité, pour se réveiller. Et donc, il ne faut, de mon point de vue, mais rien céder à ça. Jamais rien céder à ça, et avoir le courage de nommer les choses, et notamment de dire...
Mais le courage de nommer les choses ne suffit pas, parce que on a le sentiment comme ça, vu de l'extérieur, que Sciences Po, aujourd'hui, est devenu une espèce de bunker woke.
Oui, mais ils le paieront. De toute façon, ils le paieront, parce que ça finira par affecter d'une façon... D'ailleurs, regardez, le fait que vous en parliez, qu'on en parle de plus en plus, le type de questions que vous posez, je l'entends de temps en temps, donc j'entends cette musique autour de Sciences Po, c'est quelque chose de toute façon qu'ils vont payer, d'autant plus que ce wokisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui à Sciences Po est une importation du pire de l'université américaine. Et en plus, on la greffe dans un pays qui est justement... par tradition, le pays de la Révolution.
Voilà, le pays des Lumières, des droits de l'homme.
Exactement. Et donc, qui doit être justement un bouclier contre ça. Donc, les universités françaises et Sciences Po devraient être un bouclier contre ces idées.
Parce que cette jeunesse, en ce moment, à Sciences Po, on va la retrouver à des postes clés, à la fois au sein de l'État et dans le secteur privé. Un pays mené par des idéologues est toujours en danger.
Oui, bah attendez, ça peut-être que ça changera, parce que les idéologues des années 68, vous savez, beaucoup sont devenus des chefs d'entreprise qui votent à droite aujourd'hui, et pas la droite la plus molle. Hein. Donc, vous savez, les choses peuvent changer. Mais je pense que on se laisse trop souvent impressionner. Il y a une cacophonie du débat public aujourd'hui, où au fond, le gagnant, c'est celui qui crie le plus fort.
Voilà.
Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ne se laisse pas impressionner. Alors, heureusement, il y a des gens qui portent cette voix. Olivier Babeau, que vous avez déjà reçu, Chloé Morin, Pascal Bruckner. Donc il y a des gens qui portent cette voix, mais j'aimerais qu'on soit plus nombreux, et surtout, voilà, il faut qu'on parle plus fort, parce que au fond, l'antiracisme, par exemple, c'est nous. c'est pas eux, c'est nous les vrais antiracistes. Donc il faut qu'on ait le courage de le dire et qu'on l'assume.
Un mot condamné par l'idéologie woke, c'est le mot excellence.
Oui.
Finalement, la passion égalitariste, elle coûte beaucoup à la France.
Oui, absolument. Ouais, ouais. Alors, ça va même plus loin, hein, puisque aujourd'hui, vous avez une critique de l'idée même de méritocratie, en réalité. Alors, qui vient des États-Unis, hein, parce que cette idée, au fond, vous savez, beaucoup d'idées, on va dire, un peu contestables, naissent quand même des campus américains et traversent l'Atlantique. Donc aujourd'hui, vous avez une attaque contre la méritocratie, qui me semble quelque chose qui est absolument catastrophique, parce que une société... pour que chacun puisse s'y épanouir, en réalité, doit reposer d'une façon ou d'une autre sur une forme de méritocratie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout conscient du fait qu'il y a des familles dans lesquelles il est plus facile de faire ses études, de s'épanouir, de gagner de l'argent, etc. Et c'est plus difficile dans d'autres familles. Mais ça, c'est la différence entre la situation et la détermination. C'est-à-dire que, évidemment que nous sommes situés dans la mesure où nous avons eu dans notre enfance des environnements familiaux plus ou moins propice, par exemple, au fait de faire des études, mais nous ne sommes pas déterminés. Et moi, tout mon combat, en fait, c'est d'expliquer que, fondamentalement, nous sommes des gens libres, que nous choisissons nos vies. Et la bonne nouvelle, c'est que les choix, on est libre de les faire, puis on peut en changer si on s'est trompé.
Bon, la guerre en Ukraine, l'immigration, l'islamisme, le pouvoir d'achat. Et bien sûr, les Français ont peur, ils sont dépendants de l'Union européenne. Mais est-ce que vous croyez en l'Europe ?
Oui, bien sûr, alors je crois beaucoup en l'Europe. Je pense que, vous savez, l'Europe... c'est une innovation institutionnelle. On n'avait jamais fait ça. C'est-à-dire cette structure qui n'est pas une structure supranationale. La France reste la France et c'est un pays indépendant, mais qui est plus qu'une alliance, bien évidemment. C'est quelque chose qui est très original, qui est né dans un contexte très particulier, qui est au fond celui de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est ça l'idée. Et donc j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme pour cette idée. En voyant bien que aujourd'hui ça ne fonctionne pas du tout comme ça devrait fonctionner.
Parce qu'elle n'a pas été construite dans l'ordre.
Elle n'a pas été construite dans l'ordre.
Il aurait fallu commencer par donner la même fiscalité à tous les pays.
Oui, et puis, vous avez raison. Et puis l'Europe, au fond, ne se vit pas comme une puissance. L'Europe est pacifiste. Donc c'est d'ailleurs un peu aussi l'influence de la Deuxième Guerre mondiale et l'influence de ce que l'Allemagne considère comme être une forme de culpabilité. On voit bien encore aujourd'hui nos amis allemands, on a beaucoup de mal à dialoguer avec eux face à la Russie, qui sont beaucoup plus sur la réserve que la France. Mais je pense que l'idée européenne, les valeurs européennes, il y a des valeurs européennes qui sont différentes des valeurs américaines. Le rapport à la justice, le rapport à la violence, le rapport aux armes, le rapport à la religion, le rapport au sexe, c'est très différent. C'est quand même plus décontracté, heureusement, sur ce sujet-là, en Europe qu'aux États-Unis. Vous voyez. Donc, il y a quand même une civilisation européenne qui mérite une organisation particulière qu'il faut changer de l'intérieur.
Alors, parlons d'un sujet très douloureux. Bon, les chiffres sont là, cruels, effroyables. En France, en moyenne, chaque semaine, 3 agriculteurs se donnent la mort. Chaque semaine. Alors, que pouvez-vous dire au monde agricole qui ne croit plus du tout en l'avenir ?
Bien sûr, complètement. Et en même temps, l'agriculture française, vous voyez, elle a des réussites, quand on la laisse faire, qui sont absolument exceptionnelles. C'est quelque chose que nos concitoyens savent peu, mais les difficultés de l'agriculture française, les pertes de parts de marché, c'est plutôt auprès de pays qui nous sont proches, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, mais l'agriculture française fonctionne très bien au Canada, par exemple. Il y a eu cet accord dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, le CETA, qui malheureusement n'a pas été ratifié par le Sénat, mais en réalité, ça marche très bien, ça a permis à des filières d'obtenir de très beaux succès. En fait, le problème des agriculteurs, il est double. C'est d'une part que nous avons en France une vision complètement passéiste et décroissante, on y revient, de l'agriculture. C'est-à-dire qu'au fond, on considère que la bonne agriculture, c'est l'agriculture. Vous savez, c'est le marketing de l'agroalimentaire. Je vois toujours, c'est les recettes de tata je sais pas quoi, les compotes de mémé je sais pas quoi.
Alors, vous voulez dire,
je sais pas ce que ça veut dire.
Vous
donc une vision
dire
complètement passéiste
très,
des choses.
Très, très, très peu de terre avec des poules, quelques vaches et on pense que l'agriculteur va pouvoir s'en sortir. Mais il ne peut pas s'en sortir.
Et évidemment, ça peut marcher. Puis la deuxième chose, c'est que nous avons en France, et c'est notre grand défaut, une propension à tout compliquer, à tout bureaucratiser, à tout suradministrer, mais qui est une folie française et qu'on doit combattre parce que nos agriculteurs crèvent de ça. Nos agriculteurs, si on les laisse faire un peu plus, si on leur fait confiance, si on arrête de leur taper toute la journée, mais je vous promets, ce sont des entrepreneurs extraordinaires et ils vont faire des miracles. Moi, je suis un libéral, hein. J'en suis fier. Et vous savez, quand vous laissez la liberté aux gens, je suis convaincu qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Alors, étonnamment, dans cette société, certaines choses peuvent s'inverser. Par exemple, comme dans le nucléaire. En 2011, François Hollande avait acté la fermeture de 24 réacteurs nucléaires d'ici 2025 et la fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim. Aujourd'hui, à part Fessenheim, bon nombre de ces centrales tournent à plein régime. On ne risque plus donc aucune coupure d'électricité l'hiver. Et on exporte même de l'électricité. On exporte. Je rappelle que la fermeture des centrales, d'ailleurs, avait été décidée après Fukushima, qui n'était pas une catastrophe nucléaire, mais qui était un tsunami.
Absolument.
Bon, pourquoi aucun média ne dit que la France exporte à nouveau de l'électricité, ce qui est formidable.
Ouais, c'est le destin fascinant de la France. La France, c'est un moteur à explosion. C'est pour ça qu'il faut jamais désespérer de la France. Votre exemple est très bon, je vais en prendre un autre. Au début de la campagne de vaccination, je m'en souviens très bien, je me suis battu médiatiquement parce que cette campagne de vaccination en France ne démarrait jamais et nous avons démarré, on a mis du temps à s'organiser, on a mis du temps à organiser la logistique, tout ça a été très compliqué et nous étions la risée de beaucoup de pays dans le monde au début de la campagne de vaccination contre le Covid. 6 mois après, vous aviez des missions du monde entier qui venaient voir la façon dont ça se passait en France. Donc la France, c'est pas un pays linéaire, c'est le pays du pire et du meilleur. C'est le pays de De Gaulle et de Pétain. Hein. C'est le pays dans lequel les parlementaires jettent la République à Vichy par-dessus bord, ils se sabordent, le tragique de la France, et puis... 10 ans après, vous avez le début des Trente Glorieuses les plus brillantes de tout l'Occident, c'est la France. Et donc, la France, je le disais, c'est pour ça qu'il faut jamais désespérer de la France. C'est un pays qui, à certains moments, quand même se ressaisit, retrouve une direction et fait des miracles. C'est ce qui rend d'ailleurs l'histoire de France quelque chose d'aussi passionnant.
Mais bien sûr.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Nicolas Bouzou, une voix passionnante d'Europe 1 que vous pouvez écouter du lundi au jeudi dans son édito écho dans Europe 1 Matin à partir de 7h20. Eh bien, Nicolas Bouzou publie chez Ixo La civilisation de la peur. Nicolas Bouzou, avez-vous des enfants?
Oui, j'ai 2 enfants qui auront quasiment 18 et 20 ans.
Vous faites très très jeune, alors j'imaginais que vous alliez me dire 6 et 8.
Restons sur cette impression.
Voilà, 18 et 20 ans. Bon, réellement, vous avez confiance en l'avenir qui se dessine pour eux, pour vos enfants?
Ah non, je vous mens pas. Ah oui,
honnêtement.
Vraiment. Je vous mens pas, oui, bien sûr. Ah oui, non, honnêtement, je pense que la jeunesse aujourd'hui a à sa disposition un savoir, des outils technologiques, et puis elle porte en elle une énergie, une volonté de bien faire. Les jeunes ont vraiment, c'est pas de la bien-pensance, mais je le vois avec les amis de mes enfants, je trouve qu'ils sont plein de talent, plein d'énergie, plein d'humour. Et puis, attendez, on a parlé de tous les problèmes, mais moi, vous avez parlé de mes études tout à l'heure, moi, quand je suis rentré sur le marché du travail, il y avait un taux de chômage chez les jeunes qui était complètement dingue, qui n'a rien à voir avec le taux
avec
de chômage.
Le taux actuel.
Aujourd'hui, vous êtes jeune. Si vous êtes formé, bien évidemment.
Hein, ouais.
Mais enfin, vous trouvez du travail tout de suite. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc,
alors, vous avez dit, on a parlé de tous les problèmes. Non, il y a un problème qui vraiment effraie les Français et qu'on n'a pas évoqué. L'immigration, c'est un problème qui concerne les démocraties,
absolument.
Et particulièrement les démocraties riches. On l'a dit tout à l'heure, personne ne veut aller vivre en Iran ou en Russie. Bon, la population africaine a dépassé 1,5 milliard. En 2050, les chiffres sont très officiels, elle sera cette population africaine de 2,5 milliards de personnes. Et le flux d'immigrés venant de l'Afrique vers l'Europe et vers la France ne cesse d'augmenter. Il y a eu des sondage fait, il y a quelques mois de cela, 40% des adultes africains qui sont donc en Afrique déclarent vouloir migrer absolument. Mais la solution à long terme, elle est où?
Alors, pour le coup, elle est dans le développement de l'Afrique et notamment des pays qui sont les pays dans lesquels la population augmente le plus et qui sont parfois dans des situations économiques extrêmement difficiles. C'est le cas du Nigeria, par exemple. Vous allez voir une ville comme Lagos. On ne sait même pas combien il y a d'habitants, d'ailleurs, dans la capitale à Lagos, mais il pourrait y en avoir d'ici quelques dizaines d'années 50 ou 60 millions pour une seule ville. Et donc, en réalité, les pressions migratoires seront beaucoup plus importantes à l'avenir qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir les idées très claires sur le sujet, sur ce que nous voulons ou pas en matière d'immigration, mais aussi sur la façon dont nous intégrons les personnes qui viennent vivre chez nous. Et alors pour moi, c'est très clair, il y a un texte que tous les gens qui s'intéressent à ce sujet connaissent, qui est le texte d'Ernest Renan à la fin du 19e siècle sur la nation, et qui dit, au fond, une nation, c'est ce qu'il appelle un plébiscite de tous les jours, c'est-à-dire une façon de vivre ensemble. Et donc, il faut qu'on soit... Et je reviens à nos valeurs, des Lumières, les valeurs occidentales. Je vous donne un exemple précis. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes est une question dans notre pays qui ne doit pas souffrir du début d'une discussion. On n'a même pas à en discuter. C'est comme ça. c'est la France. Quand on va à l'hôpital, qu'on soit soigné par un homme ou par une femme, c'est comme ça, on n'en parle pas. Donc vous voyez, si on veut avoir la capacité de raisonner sainement sur ces questions-là, il faut qu'on soit très clair et très offensif sur nos valeurs, sur ce qu'on est.
Alors, la France est le pays le plus taxé au monde, ouais. Ça c'est pas nouveau, et la France tient beaucoup à son modèle de protection sociale, mais les Français ont peur pour leur épargne, et à juste titre, parce que le Premier ministre, face à la dette abyssale actuelle, a déclaré, il y a très peu de temps, qu'il allait se pencher sur l'épargne des Français, sur les rentes, a-t-il dit. Bon, une fois encore, que faut-il leur dire aux Français qui ont vraiment le sentiment qu'on va les spolier du fruit de leur travail et donc de leurs économies ?
Alors, j'aime beaucoup le Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas été bien inspiré, parce que cette idée de taxation des rentes, personne n'a rien compris. Et en matière de fiscalité, vous avez raison de rappeler que la France est l'un des pays les plus fiscalisés au monde. Donc, il faut parler avec beaucoup de finesse de ces sujets-là, sinon on fait peur à tout le monde. Et là, c'est parfaitement réussi. Je pense que le Premier ministre a fait peur à tout le monde. Mais on a un énorme problème de finances publiques en France. Énorme. Le problème de finances publiques, ça veut dire que notre sphère publique, donc l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales, dépensent beaucoup plus d'argent que la somme des prélèvements sociaux et des prélèvements fiscaux, qui, vous venez de le rappeler, sont pourtant les plus élevés au monde. Donc nous avons un défi absolument majeur. Il y a deux solutions à cela qu'il faut regarder en face, ce qu'on ne fait pas. La première chose, c'est qu'on doit réorganiser, mais complètement notre sphère publique, parce qu'il y a plein d'inefficacités, parce qu'il y a plein de doublons. Donc il faut qu'on remette de l'ordre là-dedans,
qu'on
change.
Dans les hôpitaux, il paraît que près de 45% c'est de l'administratif.
On a remis
et pas du soin.
On a remis énormément d'argent dans les hôpitaux ces dernières années. C'est de l'argent qui va essentiellement à l'administration. Et on a remis beaucoup d'argent, je peux vous le garantir, je peux vous dire qu'il y a de l'argent en réalité à l'hôpital, sauf qu'il ne va pas là où il devrait aller. Donc on a ce premier sujet qu'on n'a jamais regardé en face en France, jamais. Et on en a un deuxième, c'est le fait qu'on doit se retrousser les manches pour travailler collectivement davantage, parce que on a un système de protection sociale qui est formidablement protecteur. En réalité, c'est le plus protecteur au monde.
Au monde,
mais il faut
sûr.
Bien comprendre qu'il y a une contrepartie à cette protection, c'est le fait que tout le monde bosse et que tout le monde bosse bien. Beaucoup. Et c'est, là encore, c'est comme ça, c'est la contrepartie de ce système qui nous est envié dans le monde.
Nicolas Bouzou, on est à moins de 3 mois des Jeux Olympiques. Bon, niveau sécurité, beaucoup de marqueurs sont dans le rouge. Il va falloir compter sur la chance ou sur un sursaut du génie français.
Bon, sur le génie français. Écoutez, je pense qu'il y a plus grave dans un pays que recevoir les Jeux Olympiques. Non. Alors, vous savez, la France.
Oui,
est
si on arrive à déjouer toutes les attaques terroristes.
Bien sûr, mais.
Si on a. Bah, attendez, la sécurité, là, pour l'instant, on a parlé de plan B, de plan C. Il paraît que la cérémonie d'ouverture sur la scène continue d'être le premier choix. Est-ce raisonnable ?
Écoutez, je ne sais pas s'il faut être raisonnable. Moi, je trouve que c'est ça, la France aussi. Tout le monde nous dit faire une cérémonie d'ouverture en extérieur sur la scène, c'est risqué. Eh ouais, c'est risqué. On est la France et on va essayer de le réussir, parce que peut-être que on est capable d'être plus audacieux. Mais moi, je vais vous dire, je prends un risque là. Je prends un engagement. Je pense que ça va être formidable, cette période des Jeux Olympiques, parce que déjà, la France, on sait organiser des événements. On a organisé, alors c'était il y a longtemps déjà, mais c'était très important. On a fait un bicentenaire de la Révolution française qui était extraordinaire. On a une autre échéance qui est absolument fantastique, qui va être la réouverture de Notre-Dame. C'est un sujet que je connais bien, parce que si vous me permettez, ma femme est vitrailliste et elle a été un petit peu...
Votre épouse a travaillé sur les vitraux de Notre-Dame.
Un petit peu, elle a fait de la dépose et de la repose, donc je connais un peu ce sujet aussi de l'intérieur, et ça va être un moment mais merveilleux pour le pays, parce que on transforme un drame en quelque chose qui va être fantastique, parce que Notre-Dame n'aura jamais été aussi belle qu'elle le sera au mois de décembre prochain, et le monde entier va regarder ça. Et je pense que la France, vous voyez, moi je suis pas un béni, oui, hein, vous le savez, hein, le matin, non, mais quand il y a des choses qui vont pas, je le dis, hein, je suis pas un ravi de la crèche, hein, honnêtement, et les problèmes, je les vois, et je ne nie jamais les problèmes. Mais voilà, la France, c'est un pays particulier. Eh ben, je vais vous dire, il est même possible, les Jeux Olympiques, qu'on les réussisse.
Le ciel vous entende. Bon, c'est extraordinaire. En tout cas, même si l'avenir n'est pas écrit, en vous écoutant, on comprend vraiment que croire en l'action et en l'humain est le meilleur pari qu'on puisse faire. Alors voilà, je rappelle votre livre qui vient de paraître chez XO, La civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. C'était formidablement tonique. Je vous dis à très bientôt, Nicolas Bouzou. Et je rappelle aux auditeurs, mais ils le savent, ils sont fidèles, que du lundi au jeudi, on vous retrouve dans Europe 1 Matin pour votre édito écho à partir de 7h20. À très bientôt.
À bientôt.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.